Le terme de captologie apparaît en 1990. Il a été inventé par Brian G. Fogg de l'université de Stanford. Il fait référence aux ensembles de techniques de persuasion qu'il faut comprendre selon la définition de Markova comme un processus d'influence et de communication sociale. Fogg nous propose la distinction essentielle entre macro-suasion et micro-suasion, les secondes étant du domaine du non-perçu, beaucoup plus dissimulé, beaucoup plus discrète. Les premières critiques qui sont formulées à l'égard de la captologie sont celles d'anthropomorphiser la technique, et donc les auteurs, Pinault et Fabre, proposent de remplacer le terme de captologie par persuasion médiatisée par ordinateur. Deuxième ensemble de critiques, on fait remarquer que la captologie prête peu attention aux effets négatifs pour mettre en avant des effets positifs, comme par exemple l'amélioration des résultats scolaires. Il s'avère qu'en fait, il y a beaucoup d'effets négatifs, notamment dans le monde de l'économie privée, notamment autour des réseaux sociaux, qui sont peu abordés par Fogg. Cette question est amplifiée dans les années 2000, quand Tristan Harris, un ancien de Google, va explicitement évoquer les travaux de la firme célèbre autour du design persuasif, qui est aujourd'hui reconnu notamment parmi les concepteurs d'interface. Harris va notamment mettre à jour la question portée à la captation de l'attention. On sait quel succès va rencontrer cette notion, notamment autour des travaux de Yves Citon en 2014, par exemple. Si cette notion d'attention, de captation de l'attention est popularisée, on s'éloigne avec elle de la conception d'interface, strictement parlé, pour évoquer plus généralement un cadre de vie. La captologie, initialement, s'intéresse vraiment à l'interface homme et machine. Dès que l'on s'efforce de mesurer la captologie de manière objective, on va rencontrer une difficulté très importante qui tient au fait que la captologie est théorisée a posteriori. C'est parce qu'on observe des phénomènes qu'on va en déduire des formes de captologie. La causalité est déduite de l'observation. Le problème, c'est que les implémentations ne sont pas nécessairement déterminées par la captologie, mais peut-être par d'autres formes de détermination, comme par exemple des choix pragmatiques ou des choix techniques. Donc la première question qui est posée aux chercheurs est la suivante: comment mieux saisir le champ d'action sur les utilisateurs? Afin de préciser leur champ de travail, les deux chercheurs vont distinguer trois grands ensembles qui, d'après eux, permettent de graduer sur une échelle la valeur, l'importance des différents procédés observés. Le premier ensemble est celui de la mesure du temps passé, qui n'est pas sans poser de problème, puisque effectivement, si on passe du temps, c'est qu'il y a bien quelque chose qui nous y contraint, mais ce quelque chose qui nous y contraint, ça peut être nous-mêmes, notamment notre intérêt réel, et pas nécessairement des procédés liés à la captologie. D'autant que, dans la plupart des temps, les procédés des designers, des concepteurs, va tendre plutôt à rechercher une consultation sans friction. Ils appellent « frictionless », c'est-à-dire rapide, et on ne doit pas voir, justement, ne doit pas être ralenti par les procédés de captologie qui doivent être discrets. Le deuxième grand ensemble que les chercheurs vont observer, ou plutôt qui va leur permettre d'évaluer les différents niveaux de ces procédés, est celui des modèles économiques reposant sur les interactions, notamment à travers une discipline qui s'appelle le rétro-design de l'attention. Le rétro-design permet notamment d'insister sur le fait que les interactions vont être dépendantes de critères et de modèles économiques adoptés par les services. Il y a des services qui vont chercher notamment à favoriser l'interaction entre les utilisateurs, ce qui prend du temps, alors que d'autres services vont avoir d'autres objectifs. Le troisième grand ensemble qui permet cette évaluation est celui des intentions. On peut repérer effectivement des procédés qui vont réclamer une grande mobilisation de la part des utilisateurs, notamment ce qu'on appelle les « dark patterns », avec un exemple classique, celui du bouton qui cache une action qui n'est pas celle attendue par le design, le design du bouton par exemple. Les deux chercheurs vont ensuite s'orienter vers l'élaboration de leur matrice, à partir d'une démarche empirique revendiquée. Ils vont donc mettre au jour 100 éléments qu'ils vont classer en 12 catégories et rassembler en 3 grands critères. Le premier critère serait celui de la liberté, ce qui concerne, qui réunit plus de 69 critères. Donc par exemple, on peut garder l'idée de recevoir ou non des notifications. Le deuxième grand ensemble est celui du temps. 13 éléments y ont trait. On pense par exemple au scroll infini qui va réclamer du temps. chez l'utilisateur. Et le troisième grand ensemble est celui de la perception, qui concerne 26 éléments. Donc l'utilisateur va percevoir subjectivement que l'interface, par exemple, est ludifiée. La matrice va être appliquée à un corpus de services considérés comme leaders dans leur domaine, notamment Facebook, Spotify, Le Monde, YouTube. Concernant Facebook, l'indice final est très élevé puisqu'on atteint la note de 2010. L'indice est en G, c'est-à-dire le maximum dans le domaine de l'évaluation des procédés de captologie. On citera trois procédés très fréquents, très présents, qui ont tous à voir avec le paradigme de la récompense et du renforcement comportemental. On peut noter par exemple les trois petits points qui signalent l'attente d'un message, donc qui vont mobiliser l'attention sur une zone de l'écran. Également des likes d'émotion qui fonctionnent comme des facteurs d'engagement et bien entendu des contraintes de liberté. Ou encore par exemple des vidéos en autoplay, c'est-à-dire qu'ils vont s'enchaîner avec des transitions très rapides sur lesquelles on a peu de prise à part interrompre ce flux. Du côté de Spotify, on va retrouver beaucoup de publicités incitant à s'abonner pour supprimer les publicités, donc on peut appeler ça des publicités de friction. On va également trouver de manière très présente un vocabulaire de la recommandation par toute une série de petites icônes qui permettent de signaler le rapport qu'on entretient avec le son écouté ou la musique écoutée. Du côté du Monde, on va retrouver du vocabulaire de la recommandation, mais également un procédé un petit peu nouveau qui est l'outbrain, c'est-à-dire qu'une société incluse dans le site du Monde ou dans les services du Monde, donc extérieure à lui, va se présenter sous la même charte graphique et donc introduire une sorte de confusion. Là, nous touchons au domaine de la liberté. Du côté de YouTube, qui va également avoir une note élevée de 1530, on va retrouver la valorisation des abonnements, le premium, etc. Le scroll, très important, et puis la technique de l'autoplay, très présente chez Google. Également la présence d'images très contrastées qui vont mobiliser l'attention, la présence de capital, et également la pluralité des modèles économiques présents sur les pages. Pour finir, les deux auteurs signale que la plus grande proportion va se situer entre 350 et 720. Ils vont donc en conclure qu'il va leur falloir affiner cette grille pour éviter notamment des effets de redondance. Et ils nous signalent qu'un projet futur serait de proposer aux utilisateurs un plugin de navigateur qui permettrait l'évaluation selon les critères qu'ils auraient expérimentés et sur lesquels ils auraient travaillé.